Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Une prière pour la paix en présence des présidents israéliens et palestiniens réunis autour du pape François, un événement sans précédent qui aura lieu dimanche prochain dans les jardins du Vatican. La rencontre a été présentée ce vendredi à la presse, tous les détails dès le début de ce magazine. Le Saint-Père se rendra en septembre prochain dans le plus grand cimetière militaire d'Italie afin de prier pour les victimes des guerres à l'occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Il l'a annoncé devant des dizaines de milliers de carabiniers italiens réunis place Saint-Pierre. L'anniversaire de la Grande Guerre donne lieu à de nombreuses initiatives. Nous irons à Sarajevo où Pax Christi International organise une rencontre de paix. Nous nous attarderons ensuite sur la question de la protection de la vie. Les évêques suisses ont exprimé une profonde inquiétude lors de leur dernière assemblée. Bienvenue dans ce magazine. C'est un événement très attendu et déjà qualifié d'historique, la prière pour la paix dimanche après-midi au Vatican. En présence des présidents israéliens et palestiniens, Shimon Peres et Mahmoud Abbas, réunis autour du pape François, hôte de cette rencontre, et du patriarche de Constantinople, Bartholomée. L'invitation avait été lancée par le Saint-Père depuis Bethléem le 25 mai dernier, lors de son voyage en Terre Sainte. On en sait désormais un peu plus sur l'organisation de ce grand rendez-vous. Le Père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, et le custode de Terre Sainte, le père Pierre-Baptiste Pizzaballa, ont détaillé ce vendredi devant les journalistes le déroulement de cette prière. Marie Duhamel.
On ne priera pas ensemble, mais on se retrouvera ensemble pour prier. C'est ce qu'a expliqué le custode de Terre Sainte. Il n'y aura pas de liturgie. Ce ne sera pas une prière interreligieuse, mais celle de deux peuples, israéliens, palestiniens, deux peuples composés de juifs, de chrétiens, de musulmans. Une pause dans le conflit, une respiration pour aller au-delà du politique, créer à nouveau un désir de paix. Les quatre hommes poseront ensemble un geste fort pour interpeller les opinions publiques. Au Vatican, Shimon Peres arrivera le premier vers 18h15, suivi un quart d'heure plus tard par Mahmoud Abbas. Le pape les accueillera et s'entretiendra un court instant avec chacun à la résidence Sainte-Marthe. C'est là que les rejoindra le patriarche de Constantinople, Bartholomée. Tous les quatre iront ensuite au cœur des jardins du Vatican. Des représentants de trois religions, juives, chrétiennes, musulmanes, prieront l'un après l'autre en hébreu, italien, arabe et anglais, sur trois thèmes retenus d'un commun accord, celui de la création, qui les rend tous frères, du pardon, où ils se reconnaissent pécheurs, et celui de l'invocation pour la paix. Ce sera ensuite au pape, au président israélien, puis palestinien, de prononcer leur propre invocation pour la paix. Poignée de main, ils planteront enfin un olivier avant de s'entretenir loin des caméras, en privé.
Chaque délégation a choisi ses textes, a précisé le père Pizzaballa. Tous savent tout de tous. Il y a une transparence absolue sur les prières et pas de surprise attendue. Des précisions que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe était en visite ce vendredi matin au Vatican. Il était reçu par le pape François, puis par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, accompagné de Mgr Dominique Mamberti, secrétaire pour les rapports avec les États. Les entretiens ont porté sur plusieurs thèmes d'actualité régionale et internationale, et en particulier sur les initiatives visant à promouvoir la paix et la stabilité sur le continent asiatique, sur le dossier du désarmement nucléaire, sur l'attention portée à l'environnement, mais aussi sur l'engagement du Japon dans la coopération pour le développement, notamment en Afrique. Des dizaines de milliers de carabiniers en fonction ou à la retraite accompagnés de leurs familles étaient rassemblés ce vendredi matin place Saint-Pierre pour assister à une messe célébrée à l'occasion du 200e anniversaire de la fondation de ce corps d'armes, puis rencontrer le pape. C'est au sens de la mission des carabiniers que le Saint-Père a consacré son discours, rappelant qu'elle nécessite patience, esprit de sacrifice et sens du devoir. Le pape François a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait dans le plus grand cimetière militaire italien. Orient afin de prier pour les morts de toutes les guerres à l'occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Antonino Gallo Faro.
Permettre à tous de pouvoir s'exprimer librement, de grandir et de répondre à la vocation que Dieu réserve à chacun, c'est dans ce but que s'engagent les carabiniers, a expliqué le pape. Leur service s'exprime dans la protection des individus et dans l'environnement, mais aussi dans l'action pour la sécurité et le respect des règles de la vie en société et pour le bien commun. Cette mission, cette vocation, demande un engagement quotidien, a rappelé François. Les carabiniers doivent répondre à la confiance et à l'estime que la population place en eux, et cela exige une disponibilité constante, de la patience et un esprit de sacrifice, ainsi que le sens du devoir, autant de qualités énumérées par le souverain pontife.
Pensiamo al servo di Dio, salvo da Cristo, che a 23 anni, qui vicino a Roma.
Le pape a appuyé ses propos d'un exemple, celui du jeune Salvo d'Acquito. Il avait 23 ans quand il est mort durant la Seconde Guerre mondiale, offrant sa jeune existence pour sauver la vie de personnes innocentes contre la brutalité nazie. Le pape n'a pas manqué enfin de rappeler que l'arme des carabiniers exerce aussi au-delà des frontières italiennes à l'étranger. Elle s'efforce de favoriser la paix et de garantir la sécurité, le respect de la dignité humaine et la défense des droits de l'homme dans des pays touchés par des conflits et des tensions multiples. Là encore, le pape les a encouragés à poursuivre dans cette voie.
Di essere costruttori di pace per garantire la sicurezza.
Le pape a profité de cette rencontre pour annoncer que le 13 septembre prochain, il désire se rendre en pèlerinage au sanctuaire de Redipuglia, dans la province de Gorizia, dans le nord-est de l'Italie, pour prier pour les victimes de toutes les guerres. François veut ainsi marquer le centenaire du début de cette énorme tragédie qu'a été la Première Guerre mondiale.
Antonino Gallo Faro. Les initiatives se multiplient dans de nombreux pays à l'approche des célébrations du 100e anniversaire du début de la Grande Guerre, un conflit déclenché par l'assassinat le 28 juin 1914 de l'archiduc héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, et de son épouse à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. 100 ans après, Pax Christi International rend hommage aux victimes du conflit en organisant à Sarajevo du 6 au 9 juin, une rencontre de paix internationale. Nous avons joint sur place José Enriquez, secrétaire général de Pax Christi.
On va combiner de réflexions historiques sur la Première Guerre mondiale, sur les conflits que notre monde vit aujourd'hui. Et je crois que le message de Pax Christi, que nous croyons que nous partageons avec les autres, c'est que la violence n'est pas la solution au conflit et qu'il faut que nous tous ensemble nous engagions à en trouver des solutions pacifiques à travers le dialogue.
Vous parlez donc de plusieurs conflits qui se passent donc en ce moment dans le monde. Et quelles menaces pèsent aujourd'hui sur la paix en Europe?
Évidemment, la situation en Ukraine, c'est le conflit plus visible, on peut dire, par la violence qui vivent là-bas. Mais je crois que la pression de l'immigration en Europe est aussi une source de conflit. La situation d'emploi pour beaucoup de personnes est aussi une source de conflit. Le désenchantement des personnes avec la politique qui ne permet pas vivre avec dignité à beaucoup de personnes et qui s'y est reflété aussi dans les votations récentes en Europe sont aussi une source de conflit.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. C'est dans le cadre de cette initiative que Pax Christi International remettra son prix de la paix 2014 au service jésuite aux réfugiés en Syrie, récompensé pour son exceptionnel engagement dans l'apport de secours d'urgence aux Syriens depuis le début de la guerre en 2011. Le secrétariat de la COMECC regrette la décision de la Commission européenne concernant un de nous. Le 28 mai dernier, la Commission a décidé de ne présenter aucune proposition législative en réponse à cette initiative citoyenne européenne qui demandait la fin du financement communautaire des activités qui présupposent la destruction d'embryons humains, notamment dans les domaines de la recherche. La Commission des épiscopats de la Communauté européenne est convaincue que ce financement l'avortement ne devrait pas être accepté pour des raisons éthiques, juridiques, scientifiques et même économiques. Elle rappelle par ailleurs que un de nous a constitué un exercice important de la démocratie participative et met en garde contre la décision de la Commission qui pourrait mener à un affaiblissement de cet instrument spécifique prévu par le traité de Lisbonne et qui visait à combler le fossé entre le législateur et les citoyens qu'il représente. Les évêques suisses, inquiets pour la protection de la vie, ils l'ont fait savoir lors de leur 304e assemblée ordinaire qui s'est tenue du 2 au 4 juin. Les décisions du Conseil national sur les conditions pour l'autorisation du diagnostic préimplantatoire en Suisse ont été annoncées au deuxième jour de cette rencontre. Juste auparavant, le Conseil des États s'était penché sur les modifications relatives de la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée. Les évêques se sont dit convaincus que dans ce cas, la médecine et la politique ne vont pas dans le sens du progrès. Ils soulignent qu'une société ne devient pas meilleure lorsqu'elle s'autorise à sélectionner ce qu'elle considère comme les bons et à éliminer les autres. Nous en parlons avec François-Xavier Putala, membre de la commission bioéthique de la conférence des évêques suisses.
On assiste en Suisse, comme d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, à un phénomène paradoxal. D'un côté, on proclame la dignité humaine qui est présentée et proclamée à tout bout de champ, alors que d'un autre côté, on assiste sur le terrain et dans les législations à un phénomène d'érosion. Autrement dit, plus on parle de dignité, finalement, moins on la respecte dans les faits. Et cette dignité humaine, en Suisse, porte sur deux éléments ou deux pratiques inquiétantes. D'une part, la fin de vie avec le phénomène de l'aide au suicide et d'autre part, avec les discussions actuelles et l'ouverture au diagnostic préimplantatoire. On n'est plus en train de parler de procréation médicalement assistée, mais vraiment d'un tri, d'une sélection et donc d'une affirmation que certains s'arrogent le droit de prétendre que certaines vies valent la peine d'être vécues et d'autres ne valent pas la peine d'être vécue. Comment lutter contre une maladie en supprimant le porteur de la maladie peut être considéré comme un progrès, d'où l'inquiétude des évêques suisses.
Est-ce que vous avez l'impression que les évêques suisses sont entendus sur ces questions ?
Absolument pas, parce que dans nos sociétés, dès que c'est une autorité religieuse, en particulier les évêques qui se prononcent, la population a l'impression que c'est une position confessionnelle, c'est la position de l'Église catholique. Bien sûr, c'est une position catholique, mais elle est de surcroît humaniste. Et c'est cet aspect de rejaillissement de la foi, de la grâce dans la vie de tous les jours qui est difficilement reçu dans nos sociétés. On assiste à une montée de ce qu'on appelle un eugénisme libéral, ou non plus l'eugénisme racial, où finalement ce sont les préférences individuelles qui deviennent le critère. Et souvent ces préférences individuelles sont guidées par les lois du marché. Alors c'est difficile, mais ce sera toujours ainsi. La voix de l'Évangile doit être dite à temps et à contre-temps, parce que l'Église, c'est l'Évangile qui continue.
Vous parlez donc de l'émergence d'un eugénisme libéral. Et qu'en est-il donc au niveau européen ?
Le mouvement est le même. Simplement, par exemple, pour l'aide au suicide, la Suisse a un cran d'avance. Je ne dis pas de progrès, mais d'avance. Et le problème est le suivant, c'est qu'il est possible que des pays environnants se greffent sur la pratique de la Suisse. En revanche, pour le diagnostic préimplantatoire, c'est l'inverse. Plusieurs pays, tels l'Espagne, la Belgique, autorisent depuis plusieurs années ce diagnostic et alors la Suisse s'adapte à la situation des autres pays. Et finalement, ce mouvement conduit progressivement à une baisse de vigilance parce qu'on adapte l'éthique finalement aux pratiques et aux pratiques des autres pays. Autrement dit, on va de plus en plus vers un plus petit et toujours plus petit dénominateur commun. Et dans ce sens-là, c'est pas le rôle de l'éthique de s'adapter à la pratique, c'est le rôle de l'éthique d'indiquer des voies qui sont normatives, qui sont belles, pour essayer d'orienter la pratique médicale dans un sens plus humain.
Et alors, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui concernant la protection de la vie ?
D'abord, la protection des personnes et des individus humains vivants, qu'ils soient avant la naissance ou alors en fin de vie. Mais plus gravement, il y a un problème politique. C'est qu'on voit un glissement extrêmement inquiétant pour nos démocraties, que je résumerai en un mot. C'est un glissement de la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire de la dignité objective des personnes, vers quelque chose qui est son ennemi, ou en tout cas son opposition, qui est une sorte d'exaltation des droits de l'individu souverain. Et c'est cet aspect-là, sous couvert de relativisme, sous couvert de tolérance, qui, au nom même de la démocratie, risque d'éroder, c'est-à-dire de saper progressivement les fondements mêmes du système démocratique.
François-Xavier Putala, interrogé par Audrey Radondi. Caritas Suisse monte une nouvelle fois au créneau et demande l'égalité devant la loi dans le domaine de l'asile. L'organisation catholique estime qu'à plus d'un titre, la Suisse bafoue actuellement ce principe dans le domaine des procédures d'asile, privant ainsi les demandeurs de certains de leurs droits fondamentaux. En Suisse, souligne Caritas, le débat sur la politique d'asile vise en premier lieu un objectif, limiter autant que possible le nombre de demandeurs. Ainsi, les procédures d'asile ne correspondent pas aux procédures administratives habituelles. L'organisation réclame donc plus d'égalité devant la loi. Elle exige notamment le droit inconditionnel au mariage et le droit de participer aux mesures d'intégration en cas de séjour prolongé en Suisse. Direction à présent Angers, en France, où 800 délégués responsables de l'action catholique ouvrière sont attendus du 7 au 9 juin à l'occasion de leur rencontre nationale. Une rencontre sur le thème « Engagés pour la justice et pour la dignité, ils osent l'espérance ». Parmi les participants, Mgr Emmanuel Delmas, évêque d'Angers, qui présidera 17h40 ce dimanche la célébration eucharistique de la Pentecôte. Au programme de ces trois jours, table ronde, spectacle, concerts et débats organisés autour de six thématiques: précarité et fragilité, engagement social, travail, jeunes, développement de l'action catholique ouvrière et migrants. Thérèse Durand, membre de l'action catholique ouvrière depuis 1970, participe au débat sur l'immigration. Elle s'attarde sur les temps forts de cette rencontre.
Le premier temps fort, ça va être une table ronde sur le salaire vital. C'est une table ronde concernant nos solidarités internationales. Le salaire vital, c'est en lien avec ce qui s'est passé dans les pays comme le Cambodge, le Bangladesh, tout ça, où des gens réagissent pour dire, ben nous, c'est plus possible, on peut plus vivre avec des salaires comme on a, quoi. Et donc, il faut absolument qu'on ait des salaires qui nous permettent de vivre. C'est le salaire qui permet de faire face à tout ce qui peut survenir dans la vie d'une personne ou d'une famille, et même jusqu'à un peu d'épargne, de façon à faire face à l'imprévu. Et donc, en ce moment, ça se réfléchit au niveau du MMTC, Mouvement mondial des travailleurs chrétiens, et ils ont élaboré une action commune à tous les mouvements sur ce qu'ils appelleraient un revenu minimum universel, un RMU. Et c'est déjà, la campagne elle est un petit peu lancée, donc là ça va être la présentation pour nous Français de cette campagne internationale.
Quels sont les enjeux de cette rencontre ?
Pour nous, ce serait d'essayer d'adapter l'ACO aux attentes des hommes et des femmes du monde ouvrier. Parce que ça bouge quand même, les attentes des personnes, c'est pas forcément tout à fait la même chose qu'en 70. Hein. Donc il faut vraiment qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on essaye d'adapter notre mouvement aux jeunes, aux retraités, parce que maintenant on a un certain nombre de retraités dans le mouvement, aux gens en précarité, il y a beaucoup de chômeurs, etc. Donc c'est ça l'enjeu en fait.
Le thème de cette rencontre, c'est « Engagés pour la justice et pour la dignité, ils osent l'espérance ». Aujourd'hui, quelle espérance pouvons-nous donner aux ouvriers ?
Eh bien, l'espérance qu'on peut donner, nous on la voit, je leur dis, mais tout seul, vous ne pouvez rien, vous pouvez essayer de faire une démarche, mais ça va être difficile, ça va être compliqué. Donc avec d'autres, on peut faire plus de choses, on peut avancer plus vite et on se donne de l'espérance en faisant comme ça. C'est l'action avec les autres qui est source d'espérance. Et en même temps, au travers de cette action avec les autres, on se transforme. On se découvre soi-même, on découvre les autres et on devient plus grand, plus capable d'amour aussi des autres. Dans ce sens-là, on ose l'espérance d'un monde qui sera différent, qui sera un monde d'amour comme Dieu nous demande de le faire. Mais c'est avec son aide, évidemment.
Des propos recueillis par Esther Vazeux. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.